Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales sur la chaîne de l'Armée de l'air et de l'espace. La chronique du CESA a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Henri Guillaumet. Sur un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi, une musique de l'adjudant Christian Caligaro et avec la voix de François-Éric Gendron, colonel de la réserve citoyenne. Henri Guillaumet, le naufragé des Andes. Henri Guillaumet est un pilote de l'aéropostale moins connu que Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry. Cet aviateur chevronné réalise pourtant dans les Andes un exploit qui scelle la légende fantastique de l'aventure de la poste aérienne française en Amérique du Sud.
Mon nom, Henri Guillaumet. Je suis pilote. Et dans moins d'une heure, je décollerai depuis l'hydrobase de Biscarros à destination de New York. Mais aujourd'hui, le froid matinal et le bruit des valises que l'on embarque dans les soutes de l'imposant hydravion me rappellent une terrible journée de juin 1930. Ces souvenirs, pourtant vieux de 8 ans, m'assaillent encore trop souvent, tel le clapotis de ce lac qui frappe méthodiquement la grève. Le 12 juin 1930, j'entame ma 93e traversée de la cordillère des Andes. Depuis 1929, j'assure la liaison aérienne entre Buenos Aires et Santiago du Chili, pour le compte de la Compagnie Générale Aéropostale. Grâce aux qualités de vol de ce bel avion qu'est le Potez 25, il ne m'est jamais rien arrivé. Je pars de Santiago vers 14h, en direction de l'Europe, avec le courrier en soute. Après une heure de vol, je dois faire demi-tour. Le col du Transandin est bouché par une violente tempête. La mission est reportée. Le lendemain, le vendredi 13, je décide de retenter ma chance, plus au nord, par le col Laguna Diamante. J'atteins 6500 mètres et commence à être bien secoué. Je sens que l'avion perd de l'altitude. Je veux faire demi-tour, mais je ne suis plus maître de mon appareil. En moins de 3 minutes, me voilà à 3000 mètres. Je surveille en permanence mon altimètre pour ne pas percuter les montagnes alentours. Autour de moi, la neige et le vent grondent dans mes oreilles. Je tourne en rond dans cette maudite cordillère, espérant, contre toute attente, trouver un passage dans un col. Mais après plusieurs heures de ce terrible manège, je suis à court d'essence. Et je n'ai pas d'autre choix que de me poser. J'aperçois au-dessous une zone plate sur laquelle j'effectue un atterrissage qui, en fin de course, se termine par un capotage très doux. Il est 11h35. Je me détache de mon siège et me voilà la tête la première dans la neige. Après une brève inspection de mon bon vieux Potez, je dois me rendre à l'évidence. Je suis bloqué ici. Je place alors tous mes espoirs dans les avions qui ne manqueront pas de venir à mon secours. En attendant, je décide de m'abriter sous le plan de l'avion retourné. Pour me protéger du froid, du sol gelé, je déploie mon parachute. Je protège le courrier ainsi que les vivres. Au-dessus de moi, j'entends mugir le vent. Après 2 nuits d'insomnie, mon esprit se met à divaguer. Mon avion, va-t-il se faire emporter? Vais-je sortir de cet enfer vivant? Le dimanche, au petit matin, la tempête cesse. Désormais, c'est le grand silence, blanc et de la neige, rien que de la neige. Je prends conscience que les secours ne pourront jamais me retrouver ici. Une seule solution s'offre à moi. Partir. Vite, dans une valise, j'emporte avec moi une boussole, une lampe électrique, 2 boîtes de lait condensé, des biscuits, 2 boîtes de sardines, 1 boîte de corned beef, 1/2 bouteille de rhum et 1 petit réchaud à alcool solidifié. Tout cela devrait me permettre de tenir 5 à 6 jours. Pour me protéger du froid, je garde ma combinaison en cuir. Et pour me défendre du vent, j'enfile un par-dessus dans lequel je trouve, chose extraordinaire, 4 boîtes d'allumettes. Avant de partir pour une longue traversée des enfers, j'écris sur la carlingue, au moyen d'un galet, N'ayant pas été repéré par l'avion, je pars vers l'est. Adieu à tous. Mon dernier souvenir à ma femme, avec un bon baiser. J'ai été obligé d'atterrir ici, à cause de la tempête de neige, après avoir été descendu. Henri Guillaumet. Nous sommes dimanche, 15 juin. Il est 10 heures du matin et marche vers l'est, l'Argentine. La route est rude et rendue excessivement pénible par l'altitude et la neige tombée en abondance. Après quelques pas, je dois constamment m'arrêter, épuisé, et m'asseoir sur ma valise pour reprendre mon souffle. Je suis aussi gêné par le poids de tous les vêtements que je porte. Impossible de les enlever. Le froid est à cette altitude trop intense. Je marche aussi la nuit, car je sais que pour moi le sommeil ou le repos prolongé, c'est la mort. Pour manger, je fais bouillir de la neige et un peu de lait avec l'aide du réchaud que je protège du vent en l'enfouissant dans un trou. Mes mains sont si engourdies que je gaspille bon nombre d'allumettes avant de pouvoir l'allumer. Souvent désespéré d'en gaspiller ainsi, je remballe tout et poursuis mon chemin. Les conserves sont gelées, dures, et pour les avaler, je fais d'abord fondre un peu de neige dans ma bouche. Lundi, 16 juin. J'ai réussi à gagner le fond de la vallée, mais ma joie est de courte durée. En effet, je remarque qu'elle débouche sur une montagne infranchissable. Je suis obligé de revenir sur mes pas sur le chemin si difficilement parcouru. Cette nouvelle ascension occupe toute la nuit. J'accroche ma lampe électrique au bouton de ma combinaison et je me dirige à la boussole. Lors de cette montée infernale, je me sépare de mes chaussons de vol et de mes chaussettes qui conservent trop l'humidité et me font porter un poids énorme. Mes pieds commencent à geler, m'obligeant à effectuer de nombreuses pauses assis sur ma valise pour les réchauffer avec mon cache-nez en laine. Je joue de malchance, puisque le vent glacial commence de nouveau à souffler. Il est si fort que lors d'une pause, je perds un gant emporté par une rafale de vent. Mardi 17 juin, je descends vers un torrent. Mes forces s'amenuisent et je commence à entendre des hallucinations auditives. À l'aube, c'est le chant du coq. Et pendant la journée, des sifflements de train. Au bas de la vallée, je tente de longer le torrent en enjambant les rochers. Mais ces pierres sont si glissantes qu'à chaque enjambée, je trébuche et m'enfonce dans la neige jusqu'aux épaules. J'ai peur de me casser une jambe et décide donc de marcher dans l'eau. Mercredi 18 juin. À l'aube, alors que j'ai enfin regagné la rive, le chant du coq me fait sursauter et je fais une chute d'au moins 50 mètres dans un ravin. Je perds ma valise de vivres et ma lampe électrique. Je me relève immédiatement car je sais que rester allongé, c'est encourager le sommeil à venir m'envelopper de son linceul mortuaire. Cependant, alors que je me relève, je ressens une forte douleur sur le côté droit qui me coupe la respiration. Je manque de m'évanouir. De plus, mes pieds endoloris commencent à gonfler à tel point que je dois ouvrir le cuir de mes chaussures. Malgré tout, je reprends courage, car au loin, j'aperçois la plaine argentine. Mais au moment de traverser de nouveau le torrent pour rejoindre la rive exposée au soleil, je tombe dans l'eau glaciale. Tandis qu'avec l'énergie du désespoir, je réussis à m'agripper à un rocher et à remonter sur le bord, j'aperçois un grand aigle qui plane dans les nuages, illuminé par un merveilleux coucher de soleil. Cette vision de l'oiseau sacré des Incas qui, dit-on, est le messager du ciel, me semble alors le présage d'un avenir meilleur. À peine cette pensée effleure mon esprit, qu'au loin, dans la plaine, j'aperçois des phares d'une voiture et les lumières d'un village. Jeudi 19 juin. Au petit matin, je n'ai plus de vivres. Et je dois manger une espèce de cresson amer qui ne fait que couper momentanément la faim. Je trouve une piste à mulet. J'abandonne mon manteau. Le chemin semble facile, mais ma faiblesse est extrême. Et j'ai la tête qui tourne, la bouche sèche et les lèvres enflées et gercées. Alors que je sens que je vais m'évanouir, je crois distinguer une bergère qui garde des chèvres. En me voyant, elle a l'air terrorisée. Je hurle « Yo soy l'aviator perdido, muchos pesos !» Puis, à bout de force, je tombe. La femme qui me prend dans un premier temps pour un fou me hisse avec son fils sur un mulet pour me conduire dans sa modeste cabane en pierre. Devant le feu, elle me couvre de peau et me donne du lait de chèvre et de l'eau de vie. Son mari, qui arrive dans la soirée, est très surpris de me voir. Il demande à sa femme qui je suis, et lorsqu'il apprend que je viens de Laguna Diamante, il s'exclame « Es impossible, pero es impossible !» Mais c'est impossible. Malgré leur extrême misère, ils m'offrent le gîte et le couvert. J'occupe ainsi l'unique lit de la cabane pendant que la famille s'entasse devant le feu. Le lendemain matin, après une nuit de repos, on m'emmène au commissariat de San Carlos. Un médecin me prodigue les soins élémentaires. Un télégramme avise mon ami Saint-Exupéry que je suis vivant. 2 heures plus tard, il atterrit avec un avion venu à ma rencontre. Quelle émotion en retrouvant ce vieil ami. Je lui glisse à l'oreille ce que j'ai fait. Je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. En décembre, alors que les beaux jours reviennent, une expédition se dirige vers le lieu de l'accident afin de récupérer le courrier qui se trouve encore dans l'épave du prothèse 25. Le courrier est enfin remis à ses destinataires, avec sur l'enveloppe la mention « Retard dû au service ».